Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour, c'est une priorité, un devoir, presque un mantra dans les couloirs de Bruxelles. Il faut rapprocher les citoyens des institutions européennes et le succès est souvent tout relatif. Même si, pour la première fois depuis 1979, le taux de participation aux dernières élections européennes était en hausse, il a même fait un bond en Espagne ou en Pologne par exemple. La conférence sur l'avenir de l'Europe pourrait confirmer la tendance. Soyons optimistes. Elle a été lancée ce week-end à Strasbourg. Elle a réuni 200 citoyens des 27 pays membres. Choisis un peu au hasard, au moyen de sondages, ils sont engagés dans un exercice de démocratie participative. Climat, économie, santé, immigration, ils vont débattre et formuler des recommandations concrètes qui seront présentées à l'exécutif européen au printemps prochain. L'Europe voudrait-elle élargir les bases du pouvoir ou du moins en montrer le chemin? C'est un dossier signé Carlotta Morteo.
Certains ont sorti la chemise et le blazer bleu. 200 citoyens européens assis à la place des eurodéputés dans l'hémicycle se sont retrouvés plongés dans l'univers multilingue du Parlement, casque de traduction simultanée sur les oreilles.
Europa har jo 446 millioner.
Deep change is necessary. And that's the reason why we started this conference.
L'occasion pour eux de découvrir les bâtiments où se débat la politique européenne.
Ils sont très beaux, super grands et super propres.
Bâtiments quelque peu labyrinthiques.
Je ne sais pas comment ils font pour ne pas s'y perdre.
Pour Sibylline Dupont, jeune belge de 16 ans, cette conférence sur l'avenir de l'Union, c'est une véritable initiation.
On ne sait pas trop ce que c'est l'Union européenne et là on apprend ce que c'est et à quoi elle sert. J'ai parlé avec des personnes qui viennent d'Italie ou de Grèce. On avait des petits groupes, à peu près 10 personnes, et on parle de comment on voudrait que l'Union européenne évolue jusqu'à 2030 ou 2040.
Dans le groupe de Justine Thorne, musicienne française de 38 ans, ils ont déjà quelques idées. Reste à voir si elles seront retenues.
Je trouve que c'est important de pouvoir justement donner notre voix et pouvoir s'exprimer sur les sujets du panel 1 dont je fais partie, c'est-à-dire la justice sociale, l'économie forte, la culture, le sport, l'éducation nationale et également le numérique.
Car l'objectif affiché, c'est bien celui de présenter des propositions concrètes aux eurodéputés, mais aussi à l'exécutif européen, la Commission, le Conseil, lors d'une plénière spéciale dans laquelle 80 citoyens siégeront. Guy Verhofstadt, coprésident de cette conférence sur l'avenir de l'Europe.
Ce n'est pas une opération de propagande, ce n'est certainement pas aussi un exercice d'écoute envers les citoyens, c'est vraiment une opération dans laquelle on essaye de créer une démocratie participative à côté de la démocratie représentative qu'on connaît aujourd'hui.
Pas de quoi prendre ces week-ends à Strasbourg à la légère donc. Pour Kasper Parol, militant polonais de 23 ans, c'est une affaire très sérieuse.
Pour moi, c'est une chance unique d'être ici et de pouvoir faire valoir mon point de vue.
Engagé dans l'opposition au gouvernement conservateur au pouvoir en Pologne, il a cofondé une association dédiée à former des jeunes à l'action politique. Dernièrement, ils ont mené des manifestations étudiantes pour dénoncer l'homophobie ou le retour du religieux dans les programmes scolaires.
Nos voix, à nous les jeunes, ne sont pas entendues en Pologne, alors qu'ici, 30% des participants ont entre 16 et 25 ans. Donc ça m'encourage. Ce qui me surprend, c'est de voir qu'à travers l'Europe, les jeunes ont un peu les mêmes expériences. Nous partageons les mêmes problèmes, malgré nos histoires différentes. Mais ce sont les solutions à ces problèmes qui vont faire l'objet de débats, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on verra des divergences. Si on arrive à trouver un compromis, ce serait un grand pas pour l'Union européenne.
En tout, ils seront 800 citoyens européens à alimenter cette conférence pour l'avenir de l'Union. Quoi qu'il en résulte, elle suscitera peut-être quelques vocations parlementaires.
Une page d'histoire se tourne cette semaine. Angela Merkel quitte le pouvoir en Allemagne. Dimanche 26 septembre, les électeurs vont choisir leurs députés. Des députés qui ne leur ressemblent pas assez. Trop vieux, trop blanc, trop masculin, le Bundestag. Le pourcentage de femmes y a même baissé de 7 points aux dernières législatives. L'institution manque de diversité donc, mais des citoyens se mobilisent pour faire bouger les choses en soutenant les nouvelles vocations. Niklas Munch a suivi une jeune candidate pendant sa campagne.
C'est maintenant ou jamais. Seyak Norkening sonne à chaque porte de cet immeuble de 5 étages dans le centre de Munich. Ces derniers mois, elle a déjà visité 8500 foyers. Elle a seulement 27 ans, a grandi dans la campagne bavaroise. Son père est originaire de l'ex-Yougoslavie. Elle n'a pas fait de longues études. Elle est infirmière et candidate aux élections fédérales.
J'ai grandi dans une famille nombreuse. Je suis l'aînée de 4 enfants. Mon père gagnait seul l'argent de toute la famille. Ma mère restait à la maison et s'occupait aussi de ma grand-mère. J'ai réalisé très tôt dans ma vie que si tu n'as pas un grand soutien financier de ta famille, tu atteins rapidement tes limites et que beaucoup de choses dépendent de ce que tes parents peuvent te donner, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan social et culturel.
Elle est soutenue par le Brand-New Bundestag, le Parlement flambant neuf en français. C'est une initiative pro-diversité qui, depuis 2019, s'engage pour que le Parlement soit plus représentatif de la société allemande. Maximilian Höhl et ses cofondateurs veulent préparer la politique pour l'avenir.
Nous recherchons donc de manière proactive des personnes qui, par exemple, se sont distinguées par leur engagement dans la société civile et dont nous pensons qu'elles feraient du bien au parti, seraient de bons députés et rendraient le Bundestag plus progressiste et plus diversifié. Nous aidons les personnes que nous avons repérées à jouer le rôle d'aiguillon sur des questions organisationnelles et stratégiques. Nous organisons des ateliers comme des formations médias ou de travail sur les réseaux sociaux. Et nous soutenons également financièrement les campagnes de nos candidats à plus petite échelle, avec de petites subventions de quelques milliers d'euros.
Ces candidats sont tout de même une rareté dans le paysage politique. Aujourd'hui, presque un Allemand sur quatre a des origines étrangères, et pourtant, seuls 8% des députés sont issus de l'immigration. Plus de la moitié de la population sont des femmes, et au Bundestag, elles n'occupent qu'un tiers des sièges. Et pour qu'il soit le miroir de la société, il manquerait encore au Parlement 43 personnes en situation de handicap. Ce groupe aussi compte parmi les plus discriminés. Et pour Martin Gross, politologue à l'université de Munich, c'est d'abord au parti de changer.
Martin Gross.
Guten Morgen, Herr Gross, Niklas Mönch hier von RFI.
Le problème des partis, c'est qu'ils ne cherchent même pas à être représentatifs au sein de leurs équipes. En d'autres termes, ceux qui se présentent aux élections ou sont éligibles ne sont de toute façon pas le reflet de la société. Et que la représentativité soit aussi faible qu'elle l'est actuellement, c'est un problème pour la démocratie. Nous savons, il y a eu des études là-dessus, que lorsque les gens sont directement concernés par un sujet, ils ont une façon différente d'en parler. Ils peuvent convaincre différemment ou tout simplement, ils ont ces sujets dans leur radar. Le Bundestag ressemble, si on veut être méchant, à une assemblée de vieillards blancs pour qui les droits des femmes ou des jeunes ne sont peut-être pas la priorité.
Pour contrer ce phénomène à long terme, Martin Gross propose d'ouvrir le vote aux jeunes et aux étrangers et d'inciter les partis à garantir la parité sur leur liste.
Un moyen, comme cela se fait dans d'autres pays, est de viser le financement des partis. Ceux qui ont un nombre égal de femmes et d'hommes sur leur liste recevraient plus d'argent. Un autre moyen est d'abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans ou de permettre aux personnes ayant la citoyenneté européenne ou sans passeport allemand de voter aux élections fédérales. Là, on parle de plusieurs millions de personnes qui vivent en Allemagne et payent des impôts, mais n'ont pas le droit de voter.
Parmi ces 8 millions d'électeurs potentiels se trouvait jusqu'à peu encore Tarek Alaous. L'ancien réfugié syrien voulait se porter candidat aux élections, mais sans passeport allemand, il a dû abandonner le projet. La semaine dernière, il a enfin été naturalisé. Il pourra désormais voter, mais pour se présenter, il lui faudra attendre 2025.
Et quel gouvernement va succéder à celui d'Angela Merkel? Cette question préoccupe et bien au-delà des frontières allemandes. Le favori des sondages au poste de chancelier est le social-démocrate Olaf Scholz, qui devra gouverner en coalition. Un tournant politique donc, qui aura des conséquences très larges sur la cohésion européenne, l'économie, la diplomatie. On en parle tout de suite avec l'universitaire Patrick Martin-Genier. Il est au micro de Frédéric Lebel.
Patrick Martin-Genier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit. Pourquoi ces élections allemandes sont-elles si importantes pour l'Europe ?
Elles sont importantes parce qu'il va falloir remplacer Angela Merkel dans ce qu'on appelle le couple franco-allemand, c'est-à-dire que la France et l'Allemagne, même si ces deux pays ne sont plus en situation de faire l'élan pour l'Europe à eux deux, eh bien c'est quand même essentiel. Dès lors qu'il y a un grain de sable entre la France et l'Allemagne, l'Europe n'avance plus. Donc on attend du futur chancelier ou de la future chancelière qu'elle soit capable ou qu'il soit capable de continuer à faire avancer l'intégration européenne.
On se dirige sans doute vers une coalition à trois en Allemagne. Est-ce qu'on va devoir attendre longtemps un gouvernement allemand et donc une relance de ce couple franco-allemand?
Oui, ça risque de prendre du temps. Quand on voit les coalitions régionales, ça prend minimum un mois et demi, voire deux mois. Donc le temps qu'il y ait des discussions en fonction des résultats, ça va prendre du temps. On ne sait pas s'il y aura une coalition entre le SPD, la CDU et les Verts, ou si au contraire, ce sera une coalition entre la CDU, les libéraux ou autre chose, et voire une éventuelle coalition avec l'extrême gauche. Donc c'est vrai que ça va prendre du temps. Le temps que le gouvernement se mette en place, qu'il signe un contrat de coalition, donc ça risque de prendre du temps au moment précisément où la France va prendre la présidence de l'Union européenne.
L'Europe est profondément divisé. On a réussi à recoller les morceaux entre le nord et le sud. Pas sûr qu'on y arrive entre l'est et l'ouest. Est-ce que l'Allemagne a un rôle à jouer? On a beaucoup dit que Angela Merkel savait parler, notamment à la Pologne, la Hongrie, parce qu'elle a connu ces régimes de l'est de l'Europe.
Oui, bien sûr, elle a une très très bonne connaissance. Je ne suis pas certain que les actuels dirigeants auront cette connaissance. Globalement, ils sont plus jeunes, même s'ils ont une expérience. Et donc, il n'y aura plus cette culture. Sachez que, par exemple, Angela Merkel parlait russe couramment, donc c'était une interlocutrice privilégiée pour la Russie. C'est la même chose avec la Pologne et la Hongrie. On sait bien qu'elle était absolument réticente à ce qu'on prenne des sanctions à l'égard de ces pays, et c'est d'ailleurs elle qui a exigé qu'on ne mette pas un élément de conditionnalité du versement de ces sommes d'argent au respect de l'état de droit.
Merci Patrick Martin-Jeunier.
En France, la présidentielle, c'est dans plus de six mois, mais l'élection est déjà bien présente. Le week-end dernier, c'est la primaire des écologistes qui a fait la une. Une primaire qui, à son échelle, a largement mobilisé. En sera-t-il de même le jour du scrutin? Quelle trace va laisser, par exemple, le mouvement de protestation des Gilets jaunes? Alice Roujas s'est rendue à Roubaix, dans le nord de la France, pour savoir comment les habitants d'un quartier populaire abordent cette année électorale. Reportage.
Vous sentez-vous représenté par vos élus? La question est simple, et ici, à la condition publique de Roubaix, où plusieurs associations sont hébergées, la réponse l'est tout autant. Non. Dans cette ville du Nord qui a mauvaise presse à cause d'un taux de chômage à 30% et de reportages télévisés uniquement ciblés sur la criminalité, il y a comme une impression d'abandon par les habitants. Nazia a presque 50 ans. Fille d'immigrés, elle a toujours connu les quartiers populaires de Roubaix et ceux qui les habitent.
Ces personnes-là, elles sont toujours regardées de loin, avec une loupe, comme un peu comme des insectes. Hein. C'est un peu des entomologistes, si je puis dire, les politiques et aussi les grands médias, qui ne font que relayer ce regard. Les gens, justement, de l'autre côté aussi, restent dans cette assignation. On est différents et puis chacun reste comme sur ses positions, sauf qu'eux n'ont pas de pouvoir et qui sont relégués aussi, et surtout économiquement et socialement et culturellement.
Ici, un ménage sur deux vit avec 1000 euros par mois. C'est en dessous du salaire médian français. Malgré cela, aucun ouvrier ou figure de la diversité n'a jamais été élu localement. C'est ce que Nassim fait remarquer. À 25 ans, il fait partie des acteurs de terrain, engagés dans différentes associations ainsi qu'au parti Europe Écologie Les Verts.
Quand depuis, 50 ans, les maires ont la même tête, les députés ont la même tête, c'est qu'il y a peut-être un petit problème quelque part, quoi. À un moment donné, on ne peut pas savoir ce que c'est de vivre avec le SMIC quand on n'a pas vécu avec le SMIC. On ne peut pas savoir les effets concrets, par exemple, de la loi au travail. Si on n'est pas soi-même en position de subir les effets pervers de cette loi, de la même façon, on peut faire tous les plans jeunes qu'on veut, on peut pas connaître les tenants et aboutissants, les conséquences concrètes des politiques qu'on mène pour les jeunes, si on ne connaît pas les jeunes, si on n'en est pas un soi-même. Bah oui, il faut avoir des élus qui soient diversifiés.
Il y avait un événement qui était organisé il y a pas longtemps, c'était dimanche, si je dis pas.
Des élus qui ressemblent à leurs électeurs. Pour le sociologue Éric Fassin, c'est d'abord comme cela qu'on pourrait résoudre la crise de la représentativité que traversent les banlieues et quartiers populaires.
En fait, le nombre, ça compte. Ça permet de se dire que, il y a des noirs de droite et il y a des noirs de gauche. Il y a des jeunes qui n'aiment pas la politique, mais il y en a qui aiment la politique. Il y a des musulmans qui sont féministes et il y en a qui sont antiféministes, etc. Je crois que le nombre est important parce que il oblige à briser les stéréotypes. Et donc je crois que tout se joue autour du « comme tout le monde ». En politique, l'idée qu'il n'y a pas des catégories à part qu'il faudrait traiter de manière différente, eh bien c'est ça l'enjeu démocratique. Il y a de tout dans cette jeunesse, il y a de tout dans ces classes populaires, il y a de tout dans ces banlieues, comme dans l'ensemble de la société. Autrement dit, si on veut penser politiquement, il ne faut pas réduire les gens à une culture supposée, il faut les penser comme des sujets politiques, c'est-à-dire des gens qui sont capables de penser par eux-mêmes, de décider de ce qui leur paraît souhaitable, de s'engager, de se battre, et donc de contribuer à changer le monde.
Asma a 20 ans, elle fait ses études à Sciences Po et c'est justement par envie d'exister aux yeux de la société qu'elle s'est engagée dans cette voie. Elle regrette que les habitants des quartiers populaires soient stigmatisés et relégués comme des citoyens de seconde zone.
En fait, on est toujours là à nous blâmer, toujours là à nous pointer du doigt, à dire ce qu'on fait mal, etc. Enfin, mais jamais on essaye de savoir ce qui se passe bien. Ou même, en fait, on ne cherche jamais à savoir comment améliorer notre quotidien. En fait, on pense que c'est en mettant plus d'effectifs de police que ça va bien se passer. Non, non, il n'y a pas que ça. Il faut aussi reconstruire des bâtiments. Il faut aussi mettre, je sais pas, plus de poubelles dans les rues. Ça, c'est un truc tout bête, mais vraiment, je pense que les villes, elles seront plus propres comme ça. Mais c'est des trucs tout bêtes. Mais enfin, c'est juste qu'en fait, le rôle d'un député, par exemple, c'est de faire des sessions au Parlement et ensuite de venir rencontrer les citoyens de sa circonscription. Alors moi, je sais pas comment rencontrer le député du Nord. J'ai jamais eu l'information. Donc ça, c'est un peu dommage parce que c'est leur rôle et que bah, ils le font pas, en fait.
Des élus qui ne leur ressemblent pas, ne s'intéressent pas aux problématiques des quartiers et qui, de surcroît, ne sont pas sur le terrain. Tous ces ingrédients peuvent expliquer un taux d'abstention qui bat des records à Roubaix, 80% aux dernières élections. Asma, Nazia et Nassim ne sont pas sûrs de voter à la présidentielle, mais ce n'est pas pour autant que la politique ne les intéresse pas. Ils s'engagent autrement, plus localement. Et selon eux, la politique devrait désormais se jouer ailleurs que dans les urnes.
Les mystères de la Rome antique n'en finissent pas de fasciner. Il y a 4 ans, une musicienne écossaise, Marianne Tedston Glover, est passée de l'univers de la pop à celui de l'université où elle a étudié la musique ancienne. Et elle a sorti un album de musique de la Rome antique aux sonorités qu'un citoyen romain n'aurait selon elle pas renié. Petit voyage dans le temps avec Marie Billon.
Ce qu'on entend ici, c'est une musique entièrement nouvelle, composée par Marianne Tedston Glover pour des instruments d'époque, des instruments qu'elle a dû reconstituer. Elle a constaté que certains avaient une tessiture très limitée, seulement 5 à 6 notes parfois, ou que d'autres ne pouvaient s'harmoniser que sur une seule clé musicale. Toutes ces contraintes l'ont aidée à composer. Elle a utilisé une lyre, une pandoura, instrument à cordes fait avec la coquille d'une tortue et des boyaux, et un tibia, instrument à vent fait d'ossements humains, à l'époque en tout cas. Le rythme est marqué par des percussions faites de perles que l'on frappe sur une sorte de coupe. La musicienne en a trouvé des artefacts au Getty Museum à Los Angeles. Les musées ont d'ailleurs beaucoup aidé Marianne Tedston Glover dans son travail. En regardant les scènes gravées sur les vases, les poteries, les mosaïques par exemple, elle a vu quels instruments étaient joués ensemble. Elle a aussi compris pourquoi une noix était souvent représentée à côté du tibia. À la fin de chaque phrase musicale de cet instrument, on ne peut éviter une sorte de pouette, dit-elle. La représentation de l'oiseau rend compte de ce petit travers et s'en amuse. Alors pourquoi recréer la musique de la Rome antique ? Pour l'amour de l'art et de l'histoire, mais pas seulement pour cette musicienne qui a beaucoup collaboré avec la télévision. Elle veut aussi que les films historiques puissent l'utiliser. Après tout, on n'imagine pas un sénateur romain en jeans. Alors pour quelle raison devrait-il écouter une musique anachronique ?
À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site rfi.fr, à la page podcast et bien sûr sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt.